Alors, ces derniers temps, on a passé du temps à étudier la dernière prière de Jésus peu avant sa mort et sa résurrection. Cette prière se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Et les derniers dimanches, on a déjà vu quatre sujets de prière qui sont contenus dans cette prière. En fait, il y en a sept. Et ce matin, on va lire les versets 16 à 18, même 19. Donc, on continue notre réflexion sur cette prière, la dernière prière de Jésus. Verset 15, il dit: « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » C'est ce dont on a parlé la dernière fois. « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Sanctifie-les ou consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi-même aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En fait, tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean tourne autour d'une réalité que Jésus souligne plusieurs fois. Cette réalité, c'est que lui va quitter le monde et que les disciples vont demeurer, rester dans ce monde. Et il leur dit que bien qu'ils vont rester dans ce monde n'est plus le leur. Jésus le dit plusieurs fois, vous n'êtes plus de ce monde, mais vous allez rester dans ce monde. Au verset 6, Jésus dit qu'il a pris les disciples du milieu du monde, du milieu du monde. Ce qui veut dire que, avant qu'ils ne le connaissent, le monde, c'était leur milieu. C'était dans ce monde-là, dans la culture du monde, qu'ils vivaient et qu'ils se développaient, en quelque sorte. Les disciples sont des hommes différents des autres hommes maintenant, parce qu'ils ne font plus partie du monde. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres, puisqu'ils étaient pris du milieu du monde. Ils n'avaient pas de valeur supérieure aux autres ou de qualité supérieure aux autres. Et je crois que nous pouvons dire la même chose de nous. Nous n'étions pas meilleurs ni de meilleure qualité que les autres. Mais les disciples ont changé de destination. Ils ne vivent plus pour le monde, mais pour le royaume de Dieu. Ils ont été rachetés pour un autre but que celui pour lequel ils vivaient jusque-là. Les disciples vont donc rester dans le monde, mais ils ne sont plus citoyens du monde, sont citoyens du royaume de Dieu. Donc, dans la prière de Jésus, je vais juste rappeler les quelques sujets pour lesquels Jésus a prié. D'abord, Jésus a prié pour qu'ils puissent être glorifiés en eux. Ça, c'est leur mission. Si nous sommes dans ce monde, sur cette terre, c'est pour que Jésus soit visible à travers nous, qu'il puisse être vu dans nos vies, que on puisse servir de support pour que le nom de Jésus puisse être élevé, connu. Jésus a aussi prié pour qu'il puisse être gardé dans la communion avec le Père. Il nous a montré en quelque sorte que si nous devons briller, cette lumière ne peut jaillir que d'une relation de proximité avec Dieu, pas par nous-mêmes. Il a prié ensuite pour qu'il soit rempli de sa joie, les disciples, et qu'il soit préservé du mal. Et le quatrième sujet, ici, qu'on va aborder ce matin, c'est que les disciples soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas le quatrième, c'est le cinquième, parce que j'en ai cité quatre. Ils soient sanctifiés par la vérité. Ici, à travers cette prière, on a l'idée de la vocation du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, déjà, au temps de Moïse, Dieu a précisé quelle était cette vocation. Je vous l'ai déjà dit, parmi les livres que Moïse a écrits, le livre principal, c'est le Lévitique. Parce que le Lévitique, c'est celui qui nous parle du culte que le peuple d'Israël peut rendre à Dieu. Et dans le livre du Lévitique, il y a un refrain qui revient à 7 reprises. Vous serez saints, car je suis saint. C'est quelque chose qui est écrit 7 fois dans le Lévitique. Je peux vous donner les références plus tard si vous voulez. Mais c'est intéressant de voir que dans ce livre central des livres de Moïse, le slogan qui revient 7 fois, la parole qui revient 7 fois, vous serez saints, car je suis saint. La marque qui témoigne qu'Israël appartient à Dieu, eh bien, c'est la sainteté. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, doit se différencier des autres peuples par le fait qu'il est saint, comme son Dieu est saint. C'est sa vocation. Et cette vocation qui était adressée à Israël, bien sûr, elle est aussi adressée aux disciples de Jésus, au nouveau peuple de l'Alliance. Dans Romains 6, 22, l'apôtre Paul dit: Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le fruit de la justification, du pardon, du rachat, c'est la sainteté. Dieu veut manifester sa sainteté dans nos vies. On peut dire que la sainteté arrive au premier rang des préoccupations de Dieu pour nous. D'ailleurs, dans le Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples, la première demande, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose, que ton nom soit sanctifié. Alors ce matin, on va s'intéresser à cette sainteté que Dieu veut produire en nous. Qu'est-ce qu'une personne sainte? Si vous interrogez les gens du monde au sujet d'une personne sainte, ils vous diront deux choses. D'abord, qu'une personne sainte est un être d'exception. On en rencontre peu sur Terre. D'ailleurs, quand quelqu'un a commis du mal, il vous dira: Oh, vous savez, je ne suis pas un saint. Hein? Donc, un saint, c'est un être d'exception. Et puis, il y a une seconde idée qui est influencée par le catholicisme, c'est que les saints ne font pas partie de ce monde. Les saints sont des héros spirituels qui sont reconnus comme tels après leur mort. Et dans l'Église catholique, donc, le statut de saint est conféré à ceux que l'Église canonise, reconnaît comme saints. Et parce qu'ils sont saints, l'Église catholique prétend qu'on peut même avoir recours à eux dans la prière. Mais ce n'est pas là des idées bibliques. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse justement avoir cette idée biblique de la sainteté. La notion de sainteté dans la Bible tourne autour de trois idées. La première idée, c'est que être saint, c'est d'abord être mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Ce qui est intéressant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, c'est qu'il n'y a pas que des personnes qui peuvent être saintes, il y a aussi des objets et même des concepts. La Bible parle d'une terre sainte, du jour du sabbat qui est un jour saint, du pain qui peut être saint. La postérité d'Abraham est qualifiée de sainte, l'arche de l'Alliance, Jérusalem. La tunique du sacrificateur était sainte, l'huile qu'on mettait sur le sacrificateur était sainte, et bien d'autres choses. On parle aussi de convocation sainte. Le point commun de tous ces éléments, c'est que ce sont des éléments qui ont changé de destination, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les disciples, et d'usage. Ces objets qui avaient un but ou une destination, un usage particulier, sont maintenant consacrés à Dieu. Ils servent au service de Dieu, à son culte. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Ayant été rachetés par Christ, nous avons changé de destination. Nous ne sommes plus là pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Et c'est cela, être saint. Le mot saint vient d'un mot ancien qui veut dire couper ou séparer. Séparer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Toutes les choses que j'ai désignées et qui sont qualifiées de saintes, dans l'Ancien Testament en particulier, eh bien, elles ont été séparées. Elles servaient à quelque chose et maintenant elles servent pour Dieu. Une chose ordinaire n'est pas sainte en elle-même. Elle est sainte parce que Dieu la consacre pour lui, pour son service. Il n'y a que Dieu qui peut consacrer quelque chose pour lui et qui peut faire qu'une chose qui était ordinaire devienne sainte. D'ailleurs, c'est tellement vrai dans l'Ancien Testament que lorsqu'une chose est abandonnée par Dieu, elle perd son caractère de sainteté. Le plus bel exemple de cela, c'est le temple qui était consacré à Dieu. Et puis un jour, Ézéchiel nous montre que la gloire de Dieu quitte ce temple, et ce temple n'est plus rien. Il est un bâtiment vulgaire qui peut être détruit. Les Juifs de l'époque de Jérémie ne pensaient pas que ça pourrait arriver. Dans Jérémie 7,4, ils disent, Jérémie leur dit, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. » Les Juifs pensaient parce que le temple avait été consacré à Dieu, il ne pouvait pas être détruit. Mais le temple de Dieu ne pouvait être saint que parce que Dieu y habitait. Le jour où Dieu quitte le temple, il perd son caractère saint. Il n'est plus mis à part pour Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 par rapport à nous-mêmes, vous connaissez certainement ce verset, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà, Dieu nous a pris pour lui. Notre corps avant nous servait à un autre usage. On vivait pour nous, pour nos passions, nos désirs. Et maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été séparés, mis à part. Et Dieu vit en nous par son Esprit. Et notre vocation, c'est d'être ce temple qui manifeste la sainteté de Dieu. La première idée qu'on trouve dans la Bible, donc, c'est que ce qui est saint, c'est ce que Dieu a choisi, consacré et mis à part pour lui. Il y a une deuxième idée qui est étonnante et surprenante et qui va à l'encontre de la notion catholique de la sainteté. C'est que la Bible dit que tous les disciples de Jésus sont saints, sont appelés saints. Tous les disciples de Jésus sont mis à part pour Dieu. Je pourrais parcourir de nombreuses pages du Nouveau Testament qui démontre cela, mais je vais vous citer quelques passages, surtout dans les lettres de Paul lorsqu'il s'adresse aux chrétiens des églises. Dans Romains 16, 15, l'apôtre Paul salue plusieurs personnes qui sont à Rome. Il dit « Saluez Philologue, Julie, Néré et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. » Dans 2 Corinthiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe, la région. Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur rappelle et remercie les personnes à qui il écrit, pour les services qu'ils ont rendus aux saints, à ceux qui sont dans l'Église. On doit le savoir. Alors, ça pose, bien sûr, une question, une interrogation. Comment est-ce que Dieu peut nous appeler saints? Comment est-ce que Paul peut saluer les chrétiens de Corinthe en disant à tous les saints qui sont à Corinthe? Et qu'après, il y a tellement de choses qu'il doit dénoncer, des impuretés, des péchés qui se trouvent dans cette église. Alors, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que ce n'est pas nous qui nous nommons saints, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rappelle à quel usage nous sommes destinés maintenant. Notre vocation, c'est d'être consacré à Dieu. D'ailleurs, dans Jean 17, verset 18, le verset que j'ai lu tout à l'heure, on voit Jésus qui dit lui-même « Consacre-les, tout comme moi tu m'as envoyé dans le Père, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux. » Jésus se consacre à Dieu encore plus. Il est pourtant aux portes de la mort, mais il n'a qu'une idée, c'est d'être là pour les autres. C'est ça la sainteté. Jésus nous rappelle ici que si nous sommes mis à part pour Dieu, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les autres aussi. Je me consacre moi-même pour eux. Lorsque Paul réfléchit à sa propre mort, il dit « si c'était de moi-même, je préférerais partir, je sais où je vais. Ce serait le bonheur, la joie pour moi d'être auprès du Seigneur. Mais à cause de vous, je préfère rester là. » La sainteté, c'est l'idée qu'on est là au service de Dieu pour les autres. Et cette semaine, j'ai eu à la fois la tristesse et la joie, je ne sais pas comment le dire, d'assister à l'enterrement d'un ami. Il avait 3 ans de plus que moi, un frère très cher pour moi. Et en sortant de cet enterrement, j'avais cette parole dans la tête de Jésus. « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Le temps qui te reste à vivre, à quoi il va servir? Eh bien, si tu restes sur terre, c'est pour servir Dieu, pour le bien des autres, pas que pour toi, pour le bien des autres. C'est là notre vocation, notre destination. Nous avons changé d'usage et de destination. Nous sommes maintenant ici présents, uniquement là pour le service et la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous dit et dit « Sanctifie-les, consacre-les » dans ce but. Première réponse donc, pourquoi est-ce que Dieu peut à la fois nous appeler saints? Et oui, pourquoi est-ce que nous sommes appelés saints malgré toutes nos défaillances, nos faiblesses? Ben c'est Dieu qui nous appelle saints, parce qu'il veut qu'on se rappelle la mission, la vocation qui est la nôtre. Une deuxième réponse à cela, c'est que la Bible dit que nous sommes saints, mais pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Ça, c'est toujours dit. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas des saints parce que c'est une élite particulière, mais à travers Jésus-Christ, ils ont reçu la nature de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont aussi saints, appelés saints. Christ n'est pas seulement la justice du croyant, il est aussi sa sainteté. S'il y a quelque chose de saint dans ma vie, cela ne vient pas de moi, mais de l'Esprit de Jésus qui vit en moi, l'Esprit Saint. Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il nous dit « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ qui, par lui, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est Jésus ma sainteté. C'est pas moi. Et on doit savoir que personne ne peut se consacrer à Dieu en dehors de Jésus. C'est par Jésus que nous sommes consacrés à Dieu et que nous possédons la sainteté dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention sur un danger. Parfois, dans des rassemblements chrétiens, on vous invite à vous consacrer à Dieu. Alors, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi mal compris. On ne peut pas se consacrer à Dieu par ses propres forces. L'apôtre Paul souligne ça dans Colossiens. Il parle de personnes qui vivaient de nombreux renoncements, des sacrifices, et qui essayaient par là de se consacrer à Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. La consécration, c'est l'œuvre de Dieu qui se développe en moi, c'est la vie de Christ. Je ne peux pas consacrer ce que je suis par nature. Il n'y a pas de recette qui s'appuie sur des renoncements pour arriver à la sainteté. Il y a plutôt un principe que Jean-Baptiste a énoncé lui-même. Il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est ça la sainteté. Je cède de plus en plus le contrôle de ma vie à Christ. J'apprends à renoncer à ce que je suis moi-même. Et c'est à partir de cela que la sainteté se développe. Jésus a parlé du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, et qui porte du fruit. Donc la sainteté, ce n'est pas le résultat d'un effort, un effort de renoncement, de discipline. Ça peut passer par là, mais c'est le produit de l'œuvre de Christ dans ma vie. Ce n'est pas ce que j'apporte à Dieu, c'est ce que Dieu fait en moi. J'ai dit qu'il y avait trois idées autour de la sainteté. La troisième idée, c'est que l'apôtre Paul dit que nous sommes saints et en même temps nous sommes appelés à le devenir. Il y a les deux réalités. Et dans ses salutations, ça peut sembler paradoxal, mais Paul le dit, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Aux Corinthiens, il leur dit, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. La sainteté dans la parole de Dieu, c'est à la fois un état, un fruit et un appel. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'est fait en nous, qui fait qu'on appartient à Dieu. Dieu cherche à développer ce fruit et il nous appelle à collaborer à la sainteté, à son processus de sanctification. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, versets 1 et 2, que nous devons nous distancer de la mentalité du monde, ne pas nous conformer à ses principes, mais nous offrir tout entier comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, dit Paul, c'est votre sanctification. C'est que vous laissiez Dieu poursuivre le processus de mise à part pour lui. Que vous soyez reconnu dans le monde, estampillé comme quelqu'un qui appartient à Dieu et qui reflète le caractère du Christ. Dans 2 Thessaloniciens 2, 13, je vais lire ce verset qui rejoint Jean 17, 17. Paul dit « Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. » L'apôtre Paul lit « La sainteté a deux choses. D'abord, le fait que l'Esprit Saint habite en nous, mais aussi par la parole de vérité. » comme Jésus l'a dit, par la foi en la vérité. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent ensemble pour nous, pour produire en nous la sainteté. Et bien sûr, on a besoin de connaître la parole de Dieu, de la méditer, de penser la parole de Dieu pour pouvoir grandir dans la sainteté. C'est l'outil, l'instrument que Dieu a choisi, comme Jésus l'a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Plus j'apprends à penser comme Dieu pense et comme Dieu le dit dans sa parole, à mon sujet, à son sujet, au sujet de ce que je suis, comment je dois vivre, eh bien plus le processus de sanctification s'opère en nous, se produit. Je voudrais maintenant terminer avec plutôt des applications pratiques. Martin Luther, le grand réformateur que vous connaissez certainement, au XVIe siècle, c'est lui qui a remis à l'honneur la doctrine de la justification par la foi, le fait qu'on est juste grâce à notre foi en Jésus-Christ. Il a dit ceci, « Un homme est justifié par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule. » Il voulait dire par là que la foi s'accompagne de quelque chose, s'accompagne du fruit d'une vraie repentance et d'une vie nouvelle qui commence. La justification donne le top départ de la sanctification. Nous sommes entrés, en devenant enfants de Dieu, dans un processus qui va s'achever au moment où nous serons avec le Seigneur. Nous serons alors rendus semblables à lui. Chaque chrétien qui ne recherche pas sérieusement la sainteté va contre le dessein de Dieu de le sauver. C'est Jerry Bridge qui dit ça. Chaque chrétien qui ne recherche pas sérieusement la sainteté va contre le projet de Dieu de le sauver. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté pratique? Il y aurait beaucoup de domaines à toucher, bien sûr, mais on va juste s'intéresser à l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, où l'apôtre Paul cite trois domaines dans lesquels doit se manifester la sainteté. Le premier domaine, c'est l'honnêteté, la droiture de cœur, le désir de vivre dans la vérité. Il y a plusieurs versets, je vais vous les citer, Éphésiens 4, 25. « C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » L'honnêteté, donc, le désir de vivre dans le vrai, dans le juste, est une marque de sainteté. Ça comprend le refus de mentir, la volonté d'être honnête dans les affaires que l'on traite. Ça parle aussi du refus de la paresse, de vivre au crochet d'autrui, la justesse dans nos paroles, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on déclare aux impôts, la capacité de reconnaître ses fautes, ses erreurs, de demander pardon quand on a commis une faute envers quelqu'un. L'honnêteté marche toujours avec la vérité. Et puisque nous sommes sanctifiés par la vérité, un des fruits, c'est l'honnêteté. Le deuxième domaine, c'est l'esprit pacifique. L'apôtre Paul dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, 26. « Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. » Éphésiens 4, 31. Quand on voit cela, on réalise, en tout cas pour moi, que nous ne sommes pas encore, que nous n'avons pas encore atteint la perfection et que, comme le dit Paul, on doit rechercher la sanctification. La sainteté, c'est de refuser de donner libre cours à ces réactions charnelles, humaines. C'est apprendre à vivre dans le contentement. C'est refuser la médisance, la critique systématique des autres. C'est chercher à être conciliant, bienveillant, comme Dieu l'est envers nous, indulgent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, dit Paul. Doit se rappeler, comme le dit Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Chaque fois que je suis en colère, je suis dans un processus inverse de la sanctification et je dois m'en repentir. Le troisième domaine, c'est la pureté, bien sûr, la pureté morale. Que l'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. C'est le domaine sexuel ici qui est visé, mais pas seulement, aussi nos paroles. La sainteté se refuse à l'infidélité, à l'impureté, à la culture de la convoitise. Bien sûr, nous devons veiller à cela, comme Joseph, qui recherchait la sainteté, qui a fui la tentation. La tentation aujourd'hui peut se présenter de bien des manières, que ce soit sur le plan relationnel, physique, ou par les écrans. Aujourd'hui, c'est si facile. Autrefois, dit Paul, vous étiez ténèbres, vous marchiez dans ces choses, vous faisiez en secret des choses dont vous avez honte aujourd'hui. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. La sainteté, c'est comme le vin que Jésus a changé à Cana. Il est meilleur que les autres. C'est ça la vie sainte. C'est une vie meilleure. Le mot est proche du terme impeccable ou hors pair. Et on sait très bien que pour cela, il faut vraiment l'œuvre de Dieu en nous. On ne peut pas être une personne meilleure que les autres, je pourrais dire impeccable, hors pair, sans cette œuvre profonde du Christ dans nos cœurs. Je vais terminer par 1 Pierre 1, versets 13 à 16, où l'apôtre Pierre reprend justement ce qu'on lit dans le Lévitique. Il commence par ceci: c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. 1 Pierre 1, verset 13. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. J'aime beaucoup cette idée que c'est dans la pensée que commencent les choses. Tenez votre intelligence en éveil. Rendez ferme votre pensée dans d'autres traductions. Quelqu'un a dit, une croyance, c'est ce que vous tenez. Une conviction, c'est ce qui vous tient. Je crois que la parole de Dieu, elle veut faire de nous des hommes de conviction. Elle veut qu'on ait vraiment des positions, comme Jésus face au diable, il est écrit, il est écrit. Et quand nous sommes fermes dans notre pensée, nous sommes armés, c'est dans la pensée que commence le combat. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint, car moi je suis saint. Dans 2 Corinthiens 7, l'apôtre Paul nous dit que nous devons poursuivre notre sanctification dans la crainte du Seigneur. On devra rendre compte à Dieu de nos vies. Ça peut être aussi une motivation pour nous. Je voudrais terminer par le dernier message que nous donne la Bible, la dernière exhortation. Dans l'Apocalypse chapitre 22, nous sommes dans ce temps. Versets 10 à 11, il ajouta, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Puisque le temps est proche, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Quelle est l'idée qui est derrière? Le temps est proche. Eh bien, vis à fond ce que tu veux vivre. Celui qui veut vivre dans le péché, ben vas-y, fonce. Celui qui veut se salir, eh bien vas-y, salis-toi. Mais toi qui es juste, pratique encore la justice. Toi, moi qui sommes saints, eh bien que nous puissions encore progresser dans la sainteté. Voilà, que Dieu vous aide dans ce combat. Il est avec vous, il est en vous, et il produira en vous le fruit qu'il veut y voir. C'est ça la merveilleuse promesse qu'on a dans sa parole. Amen.